Il est tout à fait approprié, alors que l'on va participer ensemble à la Sainte Cène, de prendre un moment pour réfléchir à nouveau sur le sacrifice que Jésus a accompli pour nous. En effet, je crois qu'il est approprié de méditer à nouveau sur ce grand sacrifice que Jésus a accompli et par lequel il offre le salut à tous ceux qui veulent le recevoir. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi, non pas tant sur le sacrifice de Jésus, que sur ce que ce sacrifice a apporté, sur ce que ce sacrifice a gagné pour chacun d'entre nous, à savoir la vie éternelle et la nouvelle terre. On parle peu finalement de la nouvelle terre et de la vie éternelle, et c'est étonnant parce que le temps qui passe nous rapproche de plus en plus du moment où Jésus va revenir, où cette promesse va se réaliser, et il semble qu'on en parle de moins en moins. Il faut dire qu'on est occupé. On est préoccupé par une foule de choses qui fait notre quotidien. On est préoccupé par le travail, et d'ailleurs sont préoccupés par le travail ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas d'ailleurs. On est préoccupé par l'école, on est préoccupé par les examens, on est préoccupé par notre maison, on est préoccupé par les enfants, par leur présent, par leur avenir. On est préoccupé par notre voiture qui est en panne, on est préoccupé par les ordinateurs qui ne fonctionnent pas. On est préoccupé aujourd'hui et on n'a pas le temps de porter nos pensées sur l'avenir, sur la vie éternelle, sur le retour de Jésus. Cependant, quand on enseigne la parole de Dieu, on parle de la mort, on parle de la résurrection, on parle du retour de Jésus, on parle des 1000 ans qui vont suivre le retour de Jésus selon les Écritures. Mais après, on parle peu de ce qui vient après, de la nouvelle terre, de cette vie éternelle que le Seigneur nous propose. Nous avons une difficulté cependant, c'est que nous utilisons les critères qui sont les nôtres ici-bas pour imaginer ce que sera l'avenir. Et nos critères sont extrêmement limités. C'est en fonction de ce que nous connaissons ici-bas sur la terre que nous imaginons ce que pourrait être la vie éternelle. Mais tout est limité, le temps, l'espace et même notre imagination pour comprendre ce que peut être un monde sans péché et sans même les conséquences du péché. Alors nous disons, eh bien, la vie éternelle, la nouvelle terre, ce sera comme ce qu'on a maintenant, mais en mieux, en plus beau, en plus grand. Et on se rend compte que cette réflexion-là est encore inadéquate. Alors on va même spiritualiser la chose. Et on va faire finalement de la vie éternelle, de la nouvelle terre, quelque chose de non physique, quelque chose de non palpable, d'irréel, une sorte de royaume éthéré, une sorte de vie féerique. Alors que, en réalité, la promesse qui nous est faite est d'une nouvelle terre, très concrète, très vraie, très tangible. Et nous avons du mal à réaliser ça, nous avons du mal à comprendre la dimension extraordinaire que Dieu va donner à la vie éternelle. Les disciples de Jésus, déjà, avaient du mal à comprendre qui était le Jésus ressuscité. Regardez par exemple avec moi dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 37. Vous vous souvenez, Jésus s'est présenté, ressuscité à ses disciples, et il est dit au verset 37, « Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Il fallait donc que les disciples s'ajustent à cette nouvelle réalité de Jésus ressuscité. Ils ne l'avaient pas connu de cette manière-là. Ils avaient donc besoin de comprendre la nouvelle réalité de l'existence de Jésus. Et nous avons de la même manière besoin de nous ajuster, de comprendre cette réalité inaccessible encore à notre esprit maintenant, mais cette réalité que le Seigneur veut créer dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Dans le livre « L'histoire de la rédemption » par Ellen White, à la page 443, se trouve cette phrase qui m'interpelle aujourd'hui. La crainte de matérialiser à l'extrême l'héritage des rachetés a conduit plusieurs à spiritualiser les vérités qui concernent la nouvelle terre, notre future demeure. La nouvelle terre est une réalité. C'est vrai, elle n'est pas encore installée, mais c'est une réalité. Le ciel est une réalité, et ce Jésus en chair et en os qui s'est présenté à ses disciples, c'est lui qui est monté au ciel et qui est maintenant dans le ciel, en train de travailler, de lutter, d'intercéder pour notre salut, en chair et en os. Le ciel n'est pas simplement des nuages qui se promènent et peut-être que quelque part là-haut, Dieu se cache derrière un nuage. Jésus en chair et en os est aujourd'hui au ciel dans la demeure de Dieu. On y pense peu finalement. On pense peu à cette nouvelle terre, à ce ciel tel qu'il sera parce qu'on a de la difficulté à l'imaginer. Nous avons du mal à penser comment ça va fonctionner, ce que nous allons voir, ce que nous allons vivre. Et cependant, je crois que nous avons la capacité, la possibilité de vivre déjà ça à l'avance. Regardez, quand nous prévoyons un voyage, on prévoit de partir en vacances. Alors on va prendre des cartes, on va regarder par où on va passer, on va planifier les arrêts le long du chemin, on va lire sur ce qui est intéressant de voir en chemin, et finalement on va se rendre compte qu'on est déjà excité à l'avance, bien avant même d'être parti. Le voyage va commencer avant qu'on parte, parce qu'on est déjà pris dans le voyage, on va voir ceci, on va voir cela, on va s'arrêter ici, on va faire ceci, on va faire cela. Et qu'on le veuille ou non, on est un peu comme les enfants. Vous savez, les enfants, on va leur dire, tu sais, il reste encore 5 dodos avant qu'on parte, 4 dodos avant qu'on parte, 3 dodos avant qu'on parte. Mais nous sommes aussi comme ça, parce que déjà, avant de partir en voyage, les autres choses du quotidien sont devenues moins intéressantes parce qu'on est déjà captivé par ce voyage qu'on va entreprendre et on est parti avant de partir. Est-ce qu'il en est de même avec le royaume des cieux et la nouvelle terre? Est-ce que nous vivons déjà cette excitation à l'avance de savoir que nous allons bientôt rentrer dans ce royaume des cieux, vivre sur la nouvelle terre? Et de vivre cette excitation à l'avance, cette joie, cette anticipation de ce qui nous attend et qui est extraordinaire, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Cependant, nous faisons des plans. Et nous faisons des plans pour tout ce qui concerne les choses de cette terre. On fait des plans pour la retraite, on fait des plans pour la maison, on fait des plans pour acheter ceci, pour acheter une voiture, pour une foule de choses. Et quand on y pense, on fait des plans précis, bien élaborés, pour un tas de choses qui vont finalement disparaître à court terme. Et quel plan est-ce que nous faisons pour les choses qui vont durer toujours? L'apôtre Pierre nous invite à regarder la nouvelle terre, la perspective du royaume des cieux, comme la motivation dans notre vie d'aujourd'hui. Regardez avec moi ce passage dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 13. Il est écrit ceci. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. » Vous avez remarqué, Pierre nous rappelle la promesse de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, et il continue en disant « c'est pourquoi ». Autrement dit, il y a un lien direct entre la perspective de la nouvelle terre et ce qui vient après, où il dit « appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochables dans la paix. » Par conséquent, cette perspective de la nouvelle terre, cette perspective du royaume des cieux et de ce qui nous attend, doit être pour nous la motivation pour avancer dans notre vie chrétienne, pour persévérer et pour nous appliquer à suivre ce que le Seigneur nous a donné comme mode d'emploi de la vie chrétienne. Nous prenons dans notre vie ici-bas des assurances pour un tas de choses. Et nous nous assurons que tout est bien assuré. Et nous allons payer des cotisations toute notre vie pour assurer maison, voiture et je ne sais quoi encore. Et cependant, nous avons assuré des choses qui sont passagères. Quelle assurance avons-nous prise pour les choses éternelles? Il nous est difficile d'imaginer ce que va être la nouvelle terre, ce que va être notre vie dans le ciel. Cependant, nous ne sommes pas arrivés au bout du voyage. Ce qui nous attend, en un mot, est extraordinaire, au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Quand on est jeune, on a l'impression que la vie va durer indéfiniment et qu'on a une vie qui dure éternellement devant soi. Mais quand on prend des années, on est en train de se dire « Je suis plus près de la fin que du début et si j'avais su, j'aurais fait autrement. » Quel que soit notre âge, c'est le moment de se dire peut-être maintenant qu'il faut faire autrement. Quoi qu'il arrive, que ce soit des hauts ou que ce soit des bas dans notre vie, le chrétien est invité à saisir toutes ces choses comme une motivation pour regarder en haut, regarder en avant, se porter vers les choses à venir et louer le Seigneur de ce que sa promesse est certaine et qu'elle dépasse ce que nous pouvons imaginer. Jésus nous invite justement à faire cela. Regardez avec moi dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6. Évangile selon Luc, chapitre 6, se trouve là le passage que nous connaissons bien où Jésus prononce ses béatitudes. Et il en est une que j'aimerais relire attentivement avec vous. Remarquez bien le langage de Jésus. Évangile selon Luc, chapitre 6, nous lirons à partir du verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. J'avoue, j'ai déjà du mal avec ça. Heureux serez-vous quand on va vous faire toutes sortes de misères. Ça demande déjà d'avoir une solide foi et conviction en Jésus-Christ notre Sauveur. J'ai du mal à me réjouir quand j'ai des difficultés. J'ai beaucoup de mal à me réjouir quand on me veut du mal et qu'on m'en fait. Mais le texte continue, verset 23. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse. C'est encore pire. Mais le texte continue. Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Qu'est-ce qui va nous permettre de traverser les moments difficiles? Qu'est-ce qui va nous permettre de traverser les persécutions et les problèmes de cette vie? C'est la perspective de la récompense dans le ciel. Pas nécessairement sur la terre, mais dans le ciel. Alors si nous n'avons pas cette perspective devant les yeux, si nous n'y pensons jamais, si ce n'est jamais l'objet de notre imagination, de notre préoccupation, nous nous privons d'un outil que le Seigneur nous donne pour traverser les difficultés du temps présent. Le Seigneur voudrait que nous soyons habités par cette vision de la réalité de ce qu'il veut nous offrir grâce à Jésus-Christ et pour l'éternité. Que nous ayons cette vision intérieure de ce que le royaume des cieux va être pour chacun de ceux qui auront accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Le problème, c'est que on a dénaturé, on a caricaturé ce qu'est la nouvelle terre et ce qu'est le ciel, le paradis. On en parle d'ailleurs souvent en rigolant. Et beaucoup de gens ne voient pas dans le paradis ou dans la nouvelle terre quelque chose qu'il faut attendre avec impatience. Parce que, écoutez, le paradis c'est quoi? C'est vivre sur des petits nuages pendant l'éternité à jouer de la harpe pour le Seigneur. Mais on va s'ennuyer à mourir. Et on a fait peut-être du paradis une image qui finalement n'a rien à voir avec ce que le Seigneur veut nous proposer. Vous vous rendez compte, si on est assis sur les petits nuages pendant l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un monde où on est habitué à avoir des images qui changent très rapidement, où on est habitué à avoir du changement, où on n'aime pas faire pendant longtemps la même chose, faut que ça change, faut que ça bouge, faut que ça remue. Et on va être là-bas à jouer de la harpe pendant l'éternité, mais on va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va faire? Le paradis n'est plus quelque chose que l'on regarde comme désirable. Ce n'est plus quelque chose que l'on attend avec impatience. Parce que finalement, il n'y a rien là-dedans pour la plupart des gens. Cependant, la parole de Dieu nous dit que le ciel et la nouvelle terre sont des lieux d'une activité comme nous n'avons jamais vu encore durant notre vie. Regardez par exemple dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 65. Ésaïe chapitre 65. Le prophète essaye d'exprimer avec le langage qui est le sien à cette époque-là toutes les bénédictions dont le ciel va être chargé pour chacun. Et il a du mal à le dire parce que les mots lui manquent pour exprimer ce qu'il sait de ce lieu extraordinaire que Dieu nous prépare et qu'il a peut-être vu en vision. Il parle de la part de Dieu dans Ésaïe 65, au verset 17, il est dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. » Et un peu plus loin, au verset 21, il est dit « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. » On va donc travailler. Il y aura une activité incroyable. Ce que sera cette activité, je suis impatient de le découvrir. Mais je comprends en lisant la parole de Dieu qu'il y aura dans la nouvelle terre et dans le ciel une activité qui sera rendue possible par les possibilités illimitées que Dieu mettra à notre disposition. Dans le livre « L'histoire de la rédemption » écrit par Ellen White à la page 445-432 en anglais, se trouve ce paragraphe. Écoutez ceci. Des intelligences immortelles étudieront avec émerveillement les splendeurs de la puissance créatrice et les mystères de l'amour rédempteur. Plus d'ennemis cruels et rusés pour entraîner l'homme à oublier Dieu. Toutes les facultés pourront se développer, tous les talents s'épanouir. L'acquisition des connaissances nouvelles ne fatiguera pas l'esprit et n'épuisera pas les énergies. Les plus hautes entreprises pourront être menées à bien. Les plus hautes aspirations seront satisfaites. Les plus sublimes ambitions réalisées. Néanmoins, il y aura toujours de nouveaux sommets à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à sonder, de nouveaux sujets à étudier, mobilisant toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. Toutes nos facultés vont être mises à contribution pour pouvoir étudier, comprendre et nous émerveiller devant ce que Dieu aura créé pour nous. Et souvenez-vous, même si nous recevons des capacités incroyables, nous serons toujours une éternité en retard sur Dieu. Pas moyen de le rattraper. Toutes nos facultés physiques, mental, intellectuel, tout ce que le Seigneur aura mis en nous comme potentiel sera réquisitionné. Tant ce que le Seigneur va nous offrir sera au-delà de ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Des possibilités infinies pour des projets infinis, pour l'utilisation infinie des capacités énormes que le Seigneur aura placées sur chacun d'entre nous. C'est vrai, nous nous sentons aujourd'hui limités par les mauvais aspects de notre personne. Ces mauvais aspects ne seront plus là. Le Seigneur nous donnera cette capacité de gérer dans les grandes dimensions ce qu'il nous aura confié dans les petites dimensions ici-bas pour lesquelles nous aurons été trouvés fidèles. Le Seigneur voudrait nous accorder le meilleur de ce qu'il offre à ses enfants. Et vous savez, je crois que le Seigneur est amour, la Bible nous le dit. Mais je crois que le Seigneur est aussi humour. Et il veut nous offrir de la joie, du plaisir, de l'humour, de la jouissance de ce qui est sa création. Et vous savez, on peut avoir déjà une idée de ce que le Seigneur est capable de donner à ses enfants et de l'humour qu'il a. Parce que le Seigneur a déjà créé des jouets pour ses enfants, pour les petits et pour ceux qui leur ressemblent. Les jouets que le Seigneur nous donne, ce ne sont pas des ordinateurs, des iPads, des iPods et toutes ces choses-là. Non, non, non. Il nous donne des jouets vivants. Ce sont ces créatures, ces animaux. Et lorsqu'il a créé les animaux, le Seigneur s'est amusé, croyez-moi. Écoutez, vous pensez que le Seigneur ne s'est pas amusé quand il a pris un cheval et qu'il l'a peint avec des lignes noires et blanches? Vous pensez que le Seigneur ne s'est pas amusé quand il a fait les singes? Vous pensez que le Seigneur ne s'est pas amusé quand il a fait la girafe et qu'il lui a tiré sur le cou pour qu'elle voie un peu plus haut? Et etc., etc. Alors attendez, le jour où le Seigneur va se défouler et créer pour nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre, je n'ose pas imaginer jusqu'où son imagination va aller pour offrir à ses enfants sauvés le sommet de sa créature et de nous permettre de vivre dans cet univers que Dieu aura créé par sa toute-puissance et par son amour infini. Le jour où le Seigneur va se défouler, que ne va-t-il pas créer pour nous? Alors je crois que la perspective de la nouvelle terre, la perspective de la vie dans le ciel, doit être véritablement pour nous cette motivation, ce regard en avant vers ce voyage extraordinaire. Nous serons là en chair et en os. Et Jésus, monté au ciel en chair et en os, a promis qu'il allait nous préparer des demeures. Il allait nous préparer des maisons. Ne me demandez pas comment elles seront. Je ne sais pas. Mais je lis ceci. Dans le livre Spiritual Gifts, volume 2, à la page 53, Ellen White écrit ce qu'elle a vu en vision. Et elle dit ceci. Nous avons alors porté nos regards hors de la ville. Il y avait là des maisons les plus magnifiques, resplendissantes comme de l'argent et soutenues par des piliers de perles. Ces maisons splendides sont celles que les saints vont habiter. J'arrive pas à imaginer ce que va être la maison que le Seigneur va me préparer. Je ne peux pas non plus imaginer quel va être le nom qu'il va me donner. Mais je sais que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de vrai, de concret, de réel, d'inimaginable. Quelque chose que lui-même va créer pour nous et pour l'éternité. Le diable a malheureusement travaillé fort pour détruire en nous cette perspective joyeuse, glorieuse, cette attente et cette impatience. Il nous en est parlé dans l'Apocalypse, au chapitre 13. Regardez ce qui nous est révélé dans ce chapitre. Apocalypse, chapitre 13. Il y a là une phrase qui nous indique à quel point le diable a fait des heures supplémentaires pour détruire dans l'esprit des croyants eux-mêmes cette perspective extraordinaire. Apocalypse chapitre 13, au verset 6, il est question là de la bête qui est alliée à l'ennemi, Satan, et il est dit « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Le diable a travaillé pour déformer, pour tordre, pour réduire, pour se moquer de tout ce qui est dans le domaine de Dieu. Dieu lui-même, Jésus bien entendu, mais aussi son sanctuaire et tous ceux qui sont dans les lieux célestes. Il a déformé notre conception de ce qu'est Dieu et de ce qu'il veut nous offrir. Et c'est vrai. À cause de ça et à cause de nos limitations, il nous est difficile d'imaginer, de comprendre la beauté de ce que Dieu nous prépare. Nous sommes toujours en train de ramener ces choses-là en termes de ce que nous connaissons ou de ce que nous pouvons comprendre. en oubliant que l'espace infini que le Seigneur nous donnera de découvrir et de visiter, cet espace infini est infiniment trop petit pour contenir Dieu lui-même. Dans le livre « L'histoire de la rédemption », encore à la page 443, se trouve cette phrase. Écoutez ceci. « Le langage humain est incapable de décrire la récompense des justes. Seuls pourront s'en rendre compte ceux qui en bénéficieront. Notre esprit limité ne peut comprendre la gloire du paradis de Dieu. » Oui, je sens ça aussi. Mais au-delà de toutes ces choses que le Seigneur est venu donner, il y a quelque chose de plus grandiose encore. Et j'aimerais que nous le lisions ensemble dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Il y a là un passage extrêmement important que nous connaissons bien, mais nous portons généralement notre attention sur l'aspect du retour de Jésus. Mais il y a beaucoup plus que ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 13, il nous est dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Nous avons besoin de nous accrocher à cette espérance. Elle est une réalité. Et un petit peu plus loin, dans ce texte que vous connaissez, il est dit, par exemple, au verset 17, les apôtres, vous vous en souvenez, espéraient, pensaient voir Jésus revenir de leur vivant. Et l'apôtre Paul écrit ceci, verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'apôtre Paul ici insiste sur le fait que nous allons tous ensemble, tous les sauvés ensemble, rencontrer le Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est l'autre partie extraordinaire, merveilleuse et grandiose du ciel et de la nouvelle terre. Non seulement grandiose par rapport à ce que ce sera, non seulement grandiose par rapport à la recréation de Dieu dans un monde parfait, sans péché et sans conséquence du péché, mais grandiose parce que nous serons avec Dieu lui-même, en présence de Jésus. Oh, c'est la cerise sur le gâteau. Être avec Jésus pour toujours. Mais certains vont dire, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Quand on lui aura posé toutes les questions bibliques qu'on n'a pas comprises, qu'est-ce qu'on va faire? Alors écoutez, laissez-moi prendre une image que vous allez comprendre et que je comprends aussi moi-même. Imaginez un jeune homme et une jeune fille qui sont amoureux, fous, et qui sont en train de chercher tous les moments possibles et imaginables pour pouvoir être ensemble. Si vous leur demandez « Mais qu'est-ce que vous avez faire ?», ils vont vous regarder en se demandant à quoi vous pensez. Et si vous leur dites, mais est-ce que vous voulez passer l'éternité ensemble? Ils vont vous dire, yes, pas de problème avec ça. Parce qu'ils sont amoureux fous l'un de l'autre. Mais il en est de même dans notre relation avec le Christ. Si l'amour du Christ nous presse, on ne se pose même pas la question de ce qu'on va faire avec Jésus pendant l'éternité. On a été séparés de lui pendant notre vie sur la terre. Rendons-lui gloire de ce que nous serons avec lui pendant l'éternité, avec Dieu. Et ce texte de l'Apocalypse ne cesse de répéter, il sera avec eux, avec eux, avec eux. Avec Jésus pendant l'éternité. Vous vous souvenez de Job. Job, cet homme qui a été frappé par la souffrance, frappé par le diable, frappé par l'ennemi de mille manières. Job, du sein de sa souffrance, s'exprime d'une manière que nous pouvons comprendre dans son livre au chapitre 19. Job s'exprime d'une façon très forte, d'autant plus forte que sa souffrance est insupportable, autant plus forte est l'espérance qu'il a dans le cœur. Regardez ce passage que vous connaissez dans Job au chapitre 19, à partir du verset 25. Il est dit ceci. Job chapitre 19, verset 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job est convaincu de la résurrection. Il dit, mes yeux vont le voir, mes yeux contempleront Dieu, je le verrai. Ça ne sera pas un autre, c'est moi. Il termine ce passage en disant, j'en peux plus d'attendre. Sans aucun doute, la souffrance de Job l'a amené à s'accrocher à l'espérance et à la nouvelle terre, au royaume des cieux, plus encore que tous ceux qui sont bien installés, qui ont tout ce qu'il faut, et qui en fait ont peut-être désappris à s'attacher à Dieu parce qu'ils ont l'impression que dans le matérialisme et que dans leur bien-être, ils ont déjà le paradis sur terre. Le ciel, la nouvelle terre, devrait être pour nous la cause d'une immense joie. Réfléchissez un instant. Si votre conception du ciel et de la nouvelle terre suit la mentalité populaire et que pour vous, le paradis va être un ennui éternel, jouer de la harpe sur un petit nuage avec les chérubins, et après, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, si votre conception c'est ça, comment allez-vous prêcher l'évangile à votre voisin? Qu'est-ce que vous allez lui proposer? À quoi allez-vous l'inviter? À venir s'ennuyer avec vous au paradis? La motivation même pour la prédication de l'évangile est complètement tuée. Inviter les autres à quoi? À être sauvés? À être sauvés pour quoi faire? S'ennuyer au paradis? En réalité, la perspective de la nouvelle terre, du royaume des cieux, une compréhension toujours meilleure de ce que le Seigneur veut nous offrir est une motivation extrême pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui nous entourent. De manière à ce qu'eux aussi puissent bénéficier de ce que le Seigneur veut offrir d'extraordinaire à ceux qui le reçoivent comme leur sauveur. Parce que moi je voudrais aussi qu'ils bénéficient de ce qu'ils ne connaissent pas encore. Et tout cela, c'est grâce à Jésus. Tout cela, c'est grâce à ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. C'est grâce au sacrifice incroyable que Jésus a accompli pour que nous puissions être sauvés. Et être sauvés, ce n'est pas simplement jouir maintenant du pardon et de la paix que le Seigneur veut nous donner à cause de cela, c'est aussi savoir qu'il veut donner à ses enfants de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça fait aussi partie du plan du salut. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a amené ses disciples à faire le lien entre la Sainte Cène à laquelle nous allons participer dans un moment et le royaume des cieux. Regardez ce texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, où il est question de cette dernière Pâque que Jésus va vivre avec ses disciples. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, au verset 29, il est dit ceci, et c'est Jésus qui parle. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Est-ce que vous entendez l'impatience de Jésus dans ce texte? L'impatience de Jésus d'avoir ses enfants, ses disciples, ceux qu'il aime et pour lesquels il a donné sa vie, de les avoir avec lui dans le royaume de son Père. Jésus est impatient de voir venir par milliers et par milliards tous ceux pour qui il a donné sa vie. Et aujourd'hui, dans la Sainte Cène, nous sommes en train de célébrer ce sacrifice de Jésus. Et j'aimerais que nous puissions porter notre pensée sur la puissance du sacrifice de Jésus pour nous sauver, pour nous donner cette paix et cette assurance du salut, mais pour nous permettre aussi de contempler à l'avance les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors comment nous y préparer? Le meilleur moyen de s'y préparer, c'est de vivre non pour ici-bas, mais pour l'éternité. Le meilleur moyen de s'y préparer, c'est accepter que Jésus soit notre Sauveur, maintenant et pour l'éternité. Amen.